France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, en direct jusqu'à 20h30. Alors ce soir, Game of Thrones, vous connaissez la série médiévale, merveilleuse, de HBO, qui est un succès constant depuis 2011 sur HBO, donc, et pour la France sur OCS, Orange Cinéma Série. OCS, c'est une sorte de petit Netflix français, j'imagine. Guillaume Jouet, que vous n'allez pas aimer tellement cette présentation, petit Netflix français. En tout cas, vous fêtez vos 10 ans et vous êtes notre invité ce soir, Guillaume Jouet, directeur d'OCS. Bonsoir.
Bonsoir.
Petit Netflix français, c'est un peu méchant?
Oh non, pas du tout. Je pense qu'il faut rester à sa place et qu'il ne faut pas essayer de copier un Netflix. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on fait, donc je vous raconterai ça.
Vous serez interrogé ce soir par Emmanuel Paquet, journaliste à l'Express. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Frédéric.
Et par Zoé Sfez, France Culture.
Bonsoir.
Et avec vous, Guillaume Jouet, on va, en plus et au-delà, je dirais, d'OCS et de son 10e anniversaire, on va parler de la production, cinéma et en particulier séries télé en France, du streaming vidéo en ligne par abonnement illimité ou autre sur le modèle de Netflix, on en parlera d'ailleurs dans l'actualité, ainsi que de l'état des séries télévisées aujourd'hui, et notamment des forces, peut-être aussi des faiblesses du modèle français en matière de production de séries télévisées. 20h en seconde partie d'émission, l'invité innovation de Zoé Sfez sera Jean-Baptiste Viau.
C'est le délégué général de la Cinéthèque, la Cinémathèque des réalisateurs. Vous savez, c'est cette plateforme au début de VOD maintenant aujourd'hui, dans une petite mesure de SVOD qui vous permet de découvrir des films classiques du XXe siècle, qui a lancé une nouvelle offre en abonnement, 10 films par mois pour 2,99€, qui fonctionne déjà très bien, avec évidemment toutes les difficultés qu'on connaît pour exister face à de vrais géants de la SVOD.
20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir de la politique américaine en matière d'intelligence artificielle telle que promise par Donald Trump cette semaine. Voilà pour le sommaire de Soft Power, de ce magazine Soft Power. Ce soir, cette émission est réalisée par Véronique Villa avec en régie Pierrick Monsigny. Elle a été préparée par David Lavaux et vous pouvez également la suivre, cette émission, sur les réseaux sociaux, sur Twitter au mot-clé Soft Power, ainsi que sur Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn, en podcast et sur France Culture en direct jusqu'à 20h30. France Culture, précisément 19h passées de 5 minutes. On commence cette émission par un retour sur l'expérience DAO dans l'actualité des industries culturelles, mais aussi de la politique culturelle. Expérience DAO qui se termine ce soir au Théâtre du Châtelet, au Théâtre de la Ville et au Centre Georges Pompidou. Expérience inédite et controversée avec vous, Zoé Sfez. Vous y avez vécu en immersion, y compris en y restant hier, jusqu'à aujourd'hui, toute la nuit, pour, comment dire, notre plus grand plaisir.
Notre plus grand plaisir. Écoutez, je ne sais pas, mais je vais quand même prendre 5 minutes pour essayer de vous parler de
l'expérience.
Puisque l'expérience, c'est le terme que tout le monde utilise quand on est dans DAO, et si bien les gens qui travaillent pour cette expérience, ils sont plus de 500 que les visiteurs charmés. Alors, DAO, c'est quoi? Si vous n'êtes pas à Paris, vous vous n'avez peut-être pas compris l'ampleur, disons, de l'enthousiasme et en même temps des interrogations.
Même quand on est à Paris, on n'a parfois pas compris l'ampleur de
quoi y retourner. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose ? À la base, il y a un cinéaste russe qui s'appelle Ilya Razanovsky, qui jusqu'à la trentaine n'avait réalisé qu'un seul film qui s'appelait 4, fort en anglais, qui n'a même pas été diffusé en France, donc qui n'a pas fait grand bruit, et qui a aujourd'hui 43 ans et vraisemblablement un sens de la mégalomanie assez poussé, puisqu'il y a 12 ans, il décide de faire un biopic sur Lev Landau, prix Nobel de physique russe, qui a entretenu, comme plusieurs scientifiques, des relations d'amour-haine avec l'Union soviétique. Personnage assez hors norme, chantre de l'amour libre. D'ailleurs, sa vie sexuelle fait l'objet d'un des films qu'on peut voir dans Dao. Et puis l'idée mûrit, et surtout à la faveur d'une rencontre avec l'empereur de la 4G en Russie, il s'appelle Sergueï Adoniev, qui devient le mécène de cet homme. Et cet homme, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il décide de reconstituer la vie de l'Institut physico-technique d'Ukraine que Lev Landau avait dirigé pendant la période de l'URSS entre les années 30 et 60. Et donc, de 2009 à 2011, ce réalisateur, Ilya Razanovsky, réunit 400 personnes en Ukraine dans une immense piscine désaffectée, avec pour objectif de reproduire la vie quotidienne de l'Institut sous l'œil de caméra. Alors, quelles sont les conditions de tournage ? Qui sont les gens qui y participent ? L'ambiguïté règne totalement. On sait juste qu'il y a des acteurs, qu'il y a de vrais scientifiques, qu'il y a des anciens, disons, gardes du KGB, qu'il y a aussi, et c'est lui qui incarne Dao, Lev Landau, puisque c'était son surnom, c'est le surnom de Lev Landau, il est incarné à l'écran par Théodore Kurensis, qui lui-même est un personnage controversé, puisque c'est un chef d'orchestre considéré à la fois comme génial par certains et comme une arnaque totale par d'autres, qui est grec, qui vit aujourd'hui en Russie et qui vit avec un orchestre qu'il a constitué lui-même à Perm, dans une ville totalement reculée, dont il sort quelquefois pour faire des tournées triomphales dans toute l'Europe. Y sont passés aussi Marina Abramovic, Fanny Ardant. Voilà, on nous dit simplement que ces gens-là ont vécu totalement comme s'ils étaient en URSS pendant plus de 2 ans, qu'il y a même des bébés qui sont nés pendant cette expérience. Il en tire 700 heures de rush, il y a Radnovsky, 700 heures de rush dont il fait 13 films et plusieurs séries, mais hors de question de les diffuser de manière traditionnelle. Il veut recréer une expérience qui rappellerait l'expérience du tournage et l'expérience initiale de Lev Landau. Il propose d'abord ça à Berlin, en demandant un petit bout du mur et des anciens palais soviétiques pour reconstituer cette expérience Dao. La ville finit par faire machine arrière en août dernier, et finalement, qui récupère ça ? Eh bien, c'est nous, à Paris, le Théâtre du Châtelet, le Théâtre de la Ville, qui sont tous les deux en travaux, et une partie du Centre Georges Pompidou. Alors, à quelles conditions ? C'est pas très clair. Visiblement, le Châtelet aurait investi 150 000 euros et laissé son espace quasiment dans son intégralité pendant un mois, ce qui est déjà pas mal. La promesse, c'était quoi ? C'était une plongée immersive dans l'URSS, aux frontières de l'expérience artistique et politique. La fête totalitaire, titré Trax, par exemple, juste avant que ça s'ouvre. Donc, une URSS des années 30 à 60, accessible 24 heures sur 24, avec des expériences multiples proposées aux visiteurs, films, concerts, conférences, expériences scientifiques, rencontres avec des chamans, rencontres avec des auditeurs actifs, évêques, anciennes prostituées, travailleurs sociaux qui vous permettent, au terme d'un entretien, de comprendre ce que vous avez vécu, repas russe, et possible tranche de vie dans des anciens appartements collectifs reconstitués dans les combles du théâtre du Châtelet. Pour accéder à tout ça, le visiteur devait, non pas prendre un billet, mais un visa, avoir plus de 18 ans, répondre à un questionnaire plus ou moins poussé, avec des questions psychologiques du type « Avez-vous été utilisé dans une relation sentimentale au cours de votre vie ?» ou « Avez-vous été abusé dans votre enfance ?» Et puis, ces visas coûtaient quand même très cher, 35 euros pour 6 heures de visite, 70 euros pour 24 heures, 150 euros pour un accès illimité. On sait que certains l'ont fait. Surtout, autre condition, abandonner son portable et accepter de se laisser guider par un device, ce qui est pas anodin quand le mécène, quand même, est le pape de la 4G en Russie. Qu'en fut-il en réalité ? Au début, échec technique majeur, le jour de l'ouverture, Dao ne reçoit pas les autorisations de sécurité et donc il n'y a que le théâtre du Châtelet qui ouvre. Les fameux devices ne fonctionneront jamais, on n'arrivera jamais à mettre vraiment en cohérence les fameux questionnaires qu'on vous a fait remplir avec la visite que vous avez. On comprend qu'il y a de nombreux chamans et de nombreux auditeurs actifs qui abandonnent en masse face à des visiteurs qui errent seuls dans ces théâtres en travaux sans comprendre ce qu'il faut voir. Certains ne comprenant jamais vraiment comment il faut faire pour être au bon moment évidemment dans un concert, mais le chaos fait partie du projet, se défend l'équipe de Daou. Alors, qu'est-ce qui fonctionne concrètement? On peut le dire, puisque j'y ai donc passé 24 heures. Qu'est-ce qui fonctionne à la fin? Puisqu'à la fin, tous les lieux étaient ouverts. La beauté de la grande salle dénudée du théâtre de la ville, qui est absolument magnifique. Et lors de ce dernier week-end, où on a mis clairement le paquet pour essayer de tout rattraper, des concerts absolument inédits, des chœurs russes avec Brian Eno, une performance du producteur queer que le monde entier s'arrache, Arca. L'absence de téléphone portable, c'est aussi assez intéressant, qui oblige les gens à communiquer entre eux, on avait un petit peu oublié, et surtout qui les empêche de filmer quand ils voient quelque chose de très excitant, une performance qu'ils reverront jamais. Ils peuvent pas filmer, on sent qu'il y a une certaine frustration, ça peut effectivement créer une forme de réflexion. Puis le charme certain qui opère quand vous entrez dans ces appartements collectifs avec des théières et où il y a des Russes rondouillés qui cuisinent du borsch ou jouent de l'accordéon. Voilà, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui pose problème aussi? L'impression finalement d'être nostalgique d'une ère totalitaire qu'on n'a pas connue et qu'en fait on n'avait pas très envie
nostalgie,
de connaître.
Nostalgie.
Voilà. Le prix des consommations. Vous avez des bars avec de la vodka, avec du borsch, qui sont passés de 15 euros le shot de vodka à 1 euro devant la colère des gens, puis qui sont revenus à des prix initiaux. Et puis surtout, les films. Les films, est-ce que c'est du cinéma? Est-ce que c'est du docu? Est-ce que c'est du docu-fiction? On ne sait pas vraiment. Outre l'image qui est sublime, on est avec un chef-op qui est le même que celui de Wim Wenders et de Haneke. Et ben, les objets filmiques qu'on regarde, alors que c'est quand même le cœur du problème, sont peu opérants. Outre des scènes de sexe qui sont globalement jamais simulées, visibles dans les films, ou des scènes de torture, elles aussi plus ou moins simulées, d'après ce qu'on a compris, avec des acteurs qui sont des vrais ex-agents du KGB, eh bien, on a des films qui ressemblent pas à grand-chose, il n'y a pas vraiment de scénario, on comprend que c'est une espèce d'impro permanente, et puis surtout, quasiment tous ceux qui ont collaboré, en tout cas une partie, notamment les hosts, qui sont donc les jeunes intermittents qui sont là et qui vous accueillent, dépeignent clairement un environnement très sectaire, où le fameux Ilia, le réalisateur, ou Théodore de Currensis, l'interprète de Dao, exerce un pouvoir assez réel et ambigu sur les équipes de cette expérience qui dure en fait depuis 12 ans. On a des Russes qui ont complètement quitté leur famille et leur pays et qui suivent cette expérience dans le monde entier puisqu'elle est censée aller à Londres. Et notamment sur les femmes qui pour certaines sont impliquées depuis 20 ans. On a des expériences, des conférences qui ont complètement dégénéré. On a noté plusieurs fois l'usage de drogue qui rend du coup tout ce discours sur le bien et le mal qui est censé irriguer le projet d'assez mauvais goût. Conclusion, est-ce que Dao est un objet inédit? Oui. Est-ce que c'est une œuvre d'art capable de produire une réflexion et un choc esthétique? Très clairement, moi, je peux vous dire au bout de deux jours que je ne le pense pas. On a plutôt l'impression d'être sur un parc d'attractions éphémère dédié au totalitarisme. Et au vu de son budget, qu'on n'arrive pas tout à fait clairement à évaluer, mais qui serait autour de 70 millions d'euros au bout de 12 ans quand même, est-ce qu'on aurait pu s'en passer? Ma réponse est probablement oui. Tout ce qui est certain, c'est que ça continue de fasciner. L'expérience pourrait, mais on n'est pas sûr que ça irait aller à Londres dans les mois qui suivent. Indéniablement, ça a été un vrai objet de soft power. Alors la question, c'est au profit de quoi? Au profit de la Russie? Au profit de l'URSS qui n'est plus depuis 20 ans? La question continue de se poser.
Vous allez vous coucher maintenant, hein, Zoé, c'est ça?
Non, bah, je vais
après avoir
avec
passé
vous quand
la
même
nuit, la nuit blanche
cette émission.
À Dao, 19h13.
France Culture, soft power. Abonnez-vous au podcast sur le site franceculture.fr.
Deuxième sujet, c'est jusqu'à quand?
C'est fini, ça finit ce soir à minuit.
D'accord. Deuxième sujet d'actualité ce soir pour introduire notre émission avec vous. On vient de vous entendre, Guillaume Jouet, directeur général d'OCS. OCS, les plateformes de services vidéo en streaming sur le modèle de Netflix avec beaucoup d'actualités. Emmanuel Paquette dans ce domaine. Alors on commence peut-être par Netflix, dont on a découvert cette semaine la réalité des chiffres du nombre d'abonnés en France.
Oui, c'est la première fois que Netflix communique officiellement sur les chiffres d'abonnés en France. Son patron Reed Hastings était de passage à Paris et donc il a confirmé le chiffre de 5 millions d'abonnés, ce qui est un chiffre assez important hein, puisque aujourd'hui, quand on regarde OCS, on en parlera tout à l'heure, mais je crois que c'est autour de 3 millions d'abonnés, les derniers chiffres qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, le numéro 2 juste derrière Netflix sur le marché français, en tout cas depuis la fin de l'année, ça serait Amazon, et Amazon ne communique pas sur ces chiffres. Donc on reste sur un leader du marché qui capterait à peu près 60% de part de marché en France, avec une croissance qui ne fait qu'accélérer, donc puisqu'il y a quasiment un an et demi, on parlait de 3,5 millions d'abonnés. Donc Netflix gagnerait à peu près 1 million d'abonnés chaque année.
Là, c'est les abonnés payants, si je comprends bien. C'est alors, les abonnés officiels.
Alors, c'est dans les 5 millions, généralement, Netflix met les abonnés payants et les gratuits, c'est-à-dire ceux qui sont dans la période de test pendant un mois.
Mais ça veut dire que lorsque toute une famille ou éventuellement, d'ailleurs, les codes qui peuvent circuler d'amis entre amis, ça veut dire qu'on a beaucoup beaucoup plus de Français que 5 millions qui regardent Netflix régulièrement.
Oui, parce qu'effectivement, alors on ne sait pas exactement combien de... Il y a des sondages qui donnent 20 à 30% de la base installée de Netflix qui partagent effectivement son abonnement avec des tiers. Donc ça peut être sa famille ou des amis. Et d'ailleurs, il y a même eu un hoax récemment, donc une fausse information circulant sur le fait que Netflix allait essayer de couper ses accès à la famille. Et Netflix a aussitôt démenti, parce que ça fait partie aujourd'hui de la stratégie marketing de Netflix pour faire découvrir le produit à des gens qui ne le payent pas. Donc on voit aujourd'hui que la croissance, elle continue. Surtout l'international devient extrêmement important pour Netflix, puisque les États-Unis, on arrive un peu à un plateau au niveau de croissance. Ils n'arrivent plus à gagner de nouveaux abonnés. C'est relativement faible en termes de croissance.
Et stable du coup.
Et stable. En revanche, à l'extérieur de ses frontières, là aujourd'hui, c'est le grand relais de croissance de Netflix. Notamment la France, qui visiblement fait partie des pays les plus dynamiques du marché européen.
Sur cette question, Guillaume Jouet, comment est-ce que vous voyez ce succès de Netflix qui peut-être d'ailleurs va dépasser Canal+ en 2019 ?
Alors c'est vrai que c'est assez spectaculaire, mais je crois qu'il faut pas forcément les mettre dans... Enfin, c'est une catégorie d'abonnements et d'abonnés qui sont un peu particuliers. C'est-à-dire que il y a beaucoup chez Netflix d'abonnés qui rentrent et qui ressortent, qui viennent pour une série, qui s'abonnent un mois et qui... C'est très facile en fait, c'est aussi le principe de Netflix. Hein,
très facile d'y arriver, mais très facile d'en partir.
Vous partez, vous revenez trois mois plus tard quand une série qui vous plaît vous reviendra. Et puis en plus, quand vous pouvez la binger, c'est assez facile. Donc c'est une économie différente, une sorte de machine à laver qui fait qu'on prend Netflix en complément.
Vous êtes le four micro-ondes par exemple.
On n'a qu'à dire ça.
Pourquoi machine à laver ?
Non, parce que ça fait entrer, ça rentre et ça sort c'est dans le modèle. Voilà, c'est prévu comme ça. Ce qui fait d'ailleurs que, comme vous le disiez tout à l'heure, cette politique de partager les codes est là pour essayer de garder les abonnés. Et c'est très bien foutu, puisque en fait, quand toute la famille regarde sa série. Vous avez fini votre série, vous dites allez on se désabonne, mais non, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour dire moi j'ai pas fini la mienne, et du coup en fait on se désabonne beaucoup moins, donc c'est quelque chose de très pensé et de très malin.
Et d'une certaine manière les codes qui sont diffusés comme ça gratuitement sont d'une certaine manière tolérés, on pourrait presque dire.
Ah, ils sont tolérés, ils sont même mis en avant de manière subliminale, donc ça fait partie du modèle. Et c'est...
Enfin, vous êtes bloqué au bout d'un moment quand vous êtes plus de trois à regarder en même temps.
Alors ça dépend, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'abonnement,
des offres famille, un HD, etc. Voilà.
Ensuite, c'est un modèle. En fait, la France est assez particulière parce que Netflix en France n'est pas le même Netflix que dans les autres pays, et donc ça reste en France quelque chose qui pour moi relève du complément. Et donc vous n'avez donc qu'est-ce qui est très différent en France, c'est que vous n'avez pas de cinéma récent. Et donc on est sur un marché qui est un peu à part, et il reste un autre marché où on peut trouver des programmes premium avec du cinéma récent, et ce marché c'est plutôt
Canal ou OCS. Autre sujet d'actualité lié à ces plateformes de services vidéo en streaming, Emmanuel Paquette, Disney, dont on laisse entendre que le 25 mars prochain sera annoncé le lancement de cette plateforme, une sorte de Netflix pour Disney, Disney.com, qui s'appellera Disney, le nom est peut-être Disney+, on ne sait pas exactement, même si le lancement, lui, sera sans doute beaucoup plus tard, ce qui signifie sans doute que Disney n'est pas prêt à lancer tout à fait sa plateforme tout de suite.
Alors le 25 mars prochain, c'est le service d'Apple qui devrait être lancé au niveau des États-Unis et probablement dans le monde. Mais Disney+, effectivement, le lancement est normalement prévu pour cette année, donc fin d'année 2019. La seule nouveauté récente qu'on a appris de la part du PDG de la société, donc Bob Iger, c'est que les derniers blockbusters qui sont en train de sortir au cinéma aujourd'hui, les blockbusters de Disney, notamment Captain Marvel, qui arrivera en mars-avril sur les grands écrans, devraient être après en exclusivité sur Disney+, ce qui veut dire que, d'une part, les chaînes payantes ne l'auront pas, de ce que je comprends, en tout cas, ou certaines chaînes payantes dans certains pays, et d'autre part, les autres plateformes de SVOD, notamment OCS, par exemple, ou Netflix, ne l'auront pas non plus. Donc, on voit quand même le premier impact de ce qu'on appelle une intégration verticale, c'est-à-dire que le studio qui produit distribue le film aussi et le distribue sur la plateforme qu'il souhaite et au type de population qu'il souhaite. Donc ça peut poser à terme un problème de disponibilité des contenus à l'ensemble du marché.
Et d'abus de position dominante.
Voilà, même si aujourd'hui c'est vrai que les différentes autorités de concurrence qui ont été saisies lors de la fusion avec Fox, qui notamment doit aider à promouvoir cette nouvelle plateforme Disney+, ont donné toute leur autorisation quasiment. L'Europe a dit oui avec quelques petits, ce qu'on appelle des remèdes. notamment la cession d'une chaîne qui devrait se faire là rapidement. Les États-Unis ont dit oui, la Chine a dit oui. Enfin, il y a beaucoup de pays qui doivent d'autorités de concurrence de différents pays qui ont été saisis. Pour l'instant, aucun n'a vu un problème d'intégration verticale et du fait que tous les contenus de Disney pourraient être réservés en exclusivité sur la plateforme. Moi, j'ai même discuté avec des gens de la Commission européenne qui m'ont dit l'inverse. Ils m'ont dit que ça serait une aberration économique, puisque au lieu de le vendre à tout le monde, ils le réserveraient pour eux, et donc à court terme, ils se priveraient de sommes d'argent considérables. Visiblement, c'est pas ce que pense aujourd'hui Bob Iger, pour certains titres en tout cas.
Alors, puisque j'en ai parlé avant d'en parler après, un mot sur Apple. Dans le 25 mars, sera annoncée éventuellement une plateforme qui n'est pas prête. Quand sait-on ?
Alors, la seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que Apple a décidé d'investir 1 milliard dans les contenus, auprès de notamment de Steven Spielberg et d'autres, pour créer des contenus propres à cette future plateforme. Ce qu'annonce Bloomberg aussi, c'est que cette plateforme, qui s'appellerait Apple News, devrait en fait conjuguer plusieurs types de contenus, probablement la musique, avec probablement donc la vidéo, probablement aussi l'information, des sites d'information. Donc ça serait un abonnement commun à tout cela.
Alors, un peu comme Prime finalement pour Amazon d'une certaine manière.
D'une certaine manière, ça s'approchait effectivement de Prime, mais pas pour les mêmes raisons. C'est vrai qu'aujourd'hui en plus, cet investissement dans les contenus devient extrêmement important pour Apple au regard de ce qui est aujourd'hui le centre névralgique de la société, à savoir la vente des iPhones qui est en train de ralentir sur pas mal de marchés, notamment en Chine où il y a une croissance qui est moins forte. Et Apple, son PDG, donc a annoncé que d'ici 2020, le chiffre d'affaires dans les services devrait doubler. Donc, sur l'année 2018, le chiffre d'affaires était 37 milliards de dollars dans les services, c'est-à-dire comparé à 265 milliards de dollars pour l'ensemble d'Apple. Donc, cette somme devrait doubler d'ici 2 ans. Donc, pour ça, il faut arriver avec des nouveaux services. Et cette plateforme d'Apple est extrêmement attendue parce que ce serait la première à cumuler des contenus audiovisuels, des contenus musicaux et probablement des contenus de presse écrite. Et là, on voit que c'est une attaque directe contre Spotify, contre Netflix, en fait, contre tous les acteurs du marché du streaming.
Même si, comme on le laisse entendre, c'est pas tout à fait pour tout de suite, s'agissant en tout cas de cette plateforme d'Apple. Dernière dans la série, Amazon qui, pour ce qui concerne la vidéo, est sous le nom de Prime Video. Alors Amazon, on ne connaît pas trop les chiffres, puisque là encore, ça fusionne les musiques, les livres, le cinéma, les séries télé. Donc on ne connaît pas trop les pourcentages dédiés spécifiquement aux abonnés qui seraient Prime Video. On estime cependant, et les spécialistes qu'on a pu consulter cette semaine me disent, la France apparaît comme étant le prochain terrain de jeu en 2019 de Prime, donc ce qui signifie qu'Amazon veut rentrer cette année fortement sur le marché français en termes de vidéos et donc de séries télévisées et peut-être de films.
Oui, alors ils ont commencé déjà à coproduire ou produire des séries en France.
Notamment Dutch, Les Landes.
Qui n'a pas été un succès critique.
De bienvenue chez les
ch'tis. C'est un euphémisme de dire ça.
Donc on voit que déjà ils commencent effectivement à produire, à faire de la production locale. Par ailleurs, ils ont quand même aujourd'hui un gros problème, on en parlera probablement tout à l'heure, qui est le problème de la distribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être abonné à Amazon Prime, on doit aller sur Internet, s'abonner et après visionner ça directement sur sa tablette, sur son téléphone, éventuellement sur sa télé en se connectant avec son iPad ou sa tablette. Mais il se trouve qu'ils sont pas aujourd'hui inclus dans les box des opérateurs. C'est l'objet de négociations depuis un certain temps. Les opérateurs ne sont pas vraiment ouverts à ce qu'Amazon rentre dans les box, notamment parce qu'ils savent très bien que le cœur du modèle d'Amazon, c'est pas de proposer des contenus, mais c'est bien de vendre de la marchandise auprès de leurs clients. Et donc que les contenus, notamment la vidéo, n'est qu'un produit appel. En fait, c'est un peu la baguette de pain chez Carrefour ou chez Auchan. Donc le but du jeu, c'est simplement de vous attraper pour après vous proposer d'autres choses et vous livrer très rapidement des produits et surtout faire augmenter le panier moyen des consommateurs chez Amazon. Donc ce qu'on voit aujourd'hui sur tous les marchés de différents acteurs, c'est que différents acteurs pour un même type de service, c'est-à-dire de la vidéo à la demande en fait, ont des intérêts qui sont totalement différents. Chez Amazon, c'est clairement pour faire du commerce en ligne. Chez Netflix aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, c'est certainement pour essayer de grossir sa base d'abonnés et continuer à faire des films, essentiellement des séries, et que des séries, ou beaucoup de séries en tout cas, même si le cinéma commence à arriver. Et puis on voit Disney+, qui lui c'est de l'intégration verticale, c'est pour pousser ses propres contenus et avoir une relation directe avec le consommateur pour éviter de se faire ce qu'on appelle désintermédier par des acteurs du type Netflix ou Amazon. Et puis enfin Apple qui lui essaye de venir sur le marché tout simplement parce qu'aujourd'hui ils vendent moins d'iPhone, moins de tablettes et donc l'idée c'est de se récupérer sur les services. Donc des stratégies, des acteurs extrêmement puissant, avec beaucoup de cash qui peuvent dépenser pour investir massivement.
En particulier Amazon, Apple et même Netflix.
C'est ça, ouais. Mais avec des intérêts qui sont totalement différents d'un acteur à l'autre.
Des logiques aussi différentes. Sur cette analyse, Guillaume Jouet, vous êtes directeur général d'OCS. On a cité ces quatre grandes plateformes. Comment vous voyez cette évolution indépendamment même d'OCS?
Alors, c'est une évolution extrêmement rapide
et fascinante.
En très peu de temps, on voit le paysage et tous les paradigmes sur lesquels on s'est bâti qui s'envolent. Alors en fait, c'est vrai que vous allez il y a deux écoles par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez tous les une partie des gros producteurs et des studios de contenu qui préparent leur propre offre, et donc pour nous c'est assez déstabilisant parce à qui on va les acheter, ça c'est un sujet auquel on se prépare, et donc on va aller beaucoup les prendre plus en amont et les produire nous-mêmes. Mais néanmoins, au bout d'un moment, quand vous aurez Fox, Disney qui font leur offre, Warner qui fait son offre, Apple qui fait son et Netflix d'un côté, etc. Au bout d'un moment, le consommateur,
qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va s'abonner à 8 plateformes?
Il y aura forcément des morts. Et après ça, comme vous disiez tout à l'heure, on commence à compter les sous qui sont perdus par rapport au fait que en fait Disney va se vendre à lui-même, et donc l'OTT comme on appelle ça, enfin le fait d'avoir des plateformes justement sans distribution et d'être uniquement sur Internet n'est absolument pas un modèle surtout en France qui permet de récupérer beaucoup d'argent, en tout cas très vite. Et donc à force de vendre tous les Star Wars et tous les films Disney à soi-même, ces plateformes risquent de, enfin beaucoup de spécialistes pensent que c'est pas viable, donc on verra comment ça se passe, ou alors il y a des regroupements qui vont arriver, mais en tout cas il y a quand même une interrogation. Et là je revenais, donc j'étais la semaine dernière aux États-Unis chez l'autre famille de studios qui pensent différemment, c'était chez Sony Pictures, qui eux sont un producteur qui a décidé au contraire de revendiquer de fabriquer leur programme eux-mêmes et de absolument pas lancer leur offre. Et donc eux misent sur une économie et sur un modèle total. Alors ils misent sur l'échec de ce genre de démarche, et donc ils misent plutôt pour le fait de mettre leur programme à disposition sur des grosses plateformes où vont coexister des grands supermarchés, où on aura des choses payantes, de la SVOD, de la AVOD, c'est-à-dire de la consommation avec de la publicité, donc qui permet de regarder des films.
Advertisement VOD, c'est ça?
Gratuitement, mais
Et donc on se rapproche là plus du modèle d'Amazon, en fait, où on entre pour quelque chose et on est attiré pour, on cherche quelque chose, on retrouvera quel que soit le modèle.
D'autres choses aussi.
Ouais. Et donc ces deux modèles se profilent, qui va gagner, peut-être qu'ils vont coexister, etc. Mais en tout cas, c'est assez radical comme bouleversement qui se profile.
Et quant à l'offre française, on n'a pas cité Salto, qui est un programme différent, mais qui associe TF1, M6 et France TV dans une sorte aussi de volonté d'avoir son propre service. Molotov, qui vient d'être racheté par Altice dans un autre registre. Et puis il y a d'autres acteurs, vous avez cité Warner, on peut citer aussi Hulu, qui était un système, je dirais, indépendant, mais qui aujourd'hui va être majoritairement tenu par Disney, qui en était déjà l'un des actionnaires, mais qui en rachetant Fox va devenir majoritaire, etc. Donc,
et YouTube Premium aussi, qu'on peut quand même mentionner, même si c'est pas vraiment une plateforme, YouTube est en train de lancer, et essaye de vous convaincre. D'ailleurs, je pense que quand vous regardez des vidéos sur YouTube, en ce moment, tous les jours, on vous propose de passer à YouTube Premium, donc qui comme se met à produire et donc à distribuer, mais de manière avec un abonnement, des contenus originaux, et qui a d'ailleurs, on en avait parlé ici, commandé pas mal de séries à des jeunes studios français.
On continue à parler avec vous, Guillaume Jouet, vous êtes directeur général d'OCS, mais juste avant de vous retrouver, et pour clore finalement cette séquence d'actualité qui était un peu longue, mais qui était sur des sujets qui vous intéressaient déjà en tant que directeur général d'OCS, un mot sur un tout autre sujet, le film Ralph 2.0, ou Ralph Break the Internet, qui est sorti mercredi. C'est un film d'animation très étrange, au demeurant, qui confirme qu'il existe bel et bien, en tout cas parfois, un fossé générationnel, culturel. Tout droit sorti du monde des jeux vidéo et de la culture internet, le film est bourré de codes et d'une richesse absolue en termes de références digitales. Jeux d'arcade, avatars, double sens, multiprise, je cite les mots du film, manette de jeu qui se contrôle toute seule, onomatopée Hey Bay pour eBay, jeu Sugar Rush qui rappelle quelque chose, etc. Le film explore le monde d'internet et les villes animées sont magnifiques, féeriques, y compris lorsque les marques Google, eBay, Twitter et des équivalents de YouTube apparaissent à l'écran. Alors, pour quelqu'un, très franchement, pour quelqu'un de ma génération, ce film est fascinant par ses références culturelles que j'ai, je dois l'avouer, parfois du mal à décoder quand la salle entièrement éclate de rire. Alors, on se dit, on a raté quelque chose et tout le monde attend la scène finale du film qui était sur le trailer et pas dans le film avant de la voir surgir à la fin du générique final, justement. La morale de ce film, le monde d'Internet est sombre. Mieux vaut ne pas lire les commentaires de ses posts, annonce un personnage, et ne pas prendre tout cela très au sérieux. Ralph 2.0, Ralph Breaks the Internet, réalisé par Rich Moore et Phil Johnson, en salle depuis mercredi. Et voici un extrait de la bande originale du film par le groupe Imagine Dragons. Things I wanna say the most. Find a little bit as steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Semi-lost, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I'd make it to the end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me, looking for the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do. I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. I find out how to tell you how I wanna run away. I understand it always makes you feel a certain way. I find a balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me never, demigod. I remember.
Ça fait un peu nancer tout le monde. Zoé Spez, Emmanuel Paquet.
Toujours moi, moi toujours, je suis assez.
19h31 sur France Culture.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
Guillaume Jouet, vous êtes directeur général d'OCS et notre invité ce soir. On va revenir sur Game of Thrones tout à l'heure. On parlera des séries télévisées, des évolutions de ce modèle de séries télévisées. On a parlé juste avant des évolutions du secteur de la SVOD, Netflix versus HBO, SVOD, Disney, etc. Commençons peut-être par OCS, qui fête ses 10 ans et raison de notre invitation ce soir. Comment vous résumeriez, pour quelqu'un qui connaît pas OCS, ce que c'est, tout simplement?
Alors, OCS, c'est en même temps des chaînes de télévision et c'est en même temps de la SVOD. Donc, c'est un système hybride qui ressemble en même temps à Canal+ et à Netflix. Donc, en fait, vous avez quatre chaînes, des chaînes qu'on appelle linéaires, avec des thématiques bien précises. Et les programmes que vous voyez sur ces chaînes sont en rattrapage pendant assez longtemps sur l'application et sur le service à la demande.
Qui s'appelle OCS Go, c'est ça?
Voilà. Mais en fait, il ne s'appelle plus OCS Go depuis la semaine dernière. Il s'appelle OCS tout court.
Maintenant. OCS.
Voilà, c'est un scoop. Voilà. Et par ailleurs, vous avez sur OCS énormément de programmes. Alors, je rappelle que OCS, comme son nom l'indique, cinéma-série.
C'est à la fois du cinéma et des séries. Donc, il y a cinq thématiques séries, c'est ça? Et quatre cinémas?
Non, il y a quatre chaînes.
Quatre chaînes.
En fait, il y a une chaîne qui s'appelle OCS Max,
qui fait du cinéma
grand public. Ouais. On a une chaîne qui s'appelle OCS Choc, qui est une chaîne de cinéma de genre.
Donc, d'horreur, quoi, un peu, notamment.
Non, oui, ou fantastique. Enfin, tous les cinémas de genre qui existent. On a une chaîne de cinéma d'auteur qui s'appelle OCS City Génération HBO. Vous trouvez tous les programmes HBO et du cinéma d'auteur. Beaucoup de cinéma d'auteur.
Et puis OCS géant, là c'est des films
classiques,
cultes quoi.
Des films cultes mais
grands films,
mais classiques, ouais. Voilà, jusqu'aux années 30, 40.
Donc
voilà.
Séries et voilà. Cinéma.
Séries, cinéma et puis aussi tout ce qui en parle, donc des magazines sur le cinéma, sur les séries et des documentaires, part importante pour nous, sur le cinéma et les séries. Et donc on a fait le pari quand on a lancé OCS il y a 10 ans, ce qui me paraît la préhistoire maintenant, parce que le monde va tellement vite. Donc il y a 10 ans, le mot SVOD n'existait pas vraiment.
SVOD, c'est-à-dire le
service de vidéo.
Voilà. Au fond, Netflix.
Netflix, c'était vous proposez encore des
DVD aux États-Unis
dans des enveloppes rouges.
Voilà, exactement. Et donc le vrai. Et il y a 10 ans, en fait, en France, il n'y avait qu'un acteur de télévision payante qui était Canal+.
Voilà.
Combien ça coûte? Pardon. Combien ça coûte et comment ça marche du point de vue du modèle économique?
Ça coûte à partir de
9 euros
quand vous voulez prendre uniquement la partie OTT. C'est-à-dire vous pouvez le prendre comme Netflix,
comme une
plateforme. Vous pouvez rajouter 2 euros pour l'avoir aussi en cast, pour le regarder sur Apple TV ou en Chromecast. Et puis chez tous les opérateurs, là on est sur
MyCanal, ça varie selon les opérateurs, c'est ça?
Voilà, dans les opérateurs, vous pouvez avoir tout seul ou dans des offres, des groupes de chaînes. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que, enfin, en tout cas pour revenir à la genèse, c'est qu'on avait à l'époque imaginé un service pour vraiment les fans de séries et de cinéma. Et donc à l'époque, on avait déjà identifié des typologies de séries dites ce qu'on appelle nous pay TV, c'est-à-dire des issues du vrai monde du câble américain, HBO, Showtime, etc. Donc des séries avec des épisodes qui se suivent, des narrations sophistiquées et des choses avec des aspérités fortes. Et donc à l'époque, on avait imaginé pouvoir montrer ces séries avec ce fameux système à la demande, et donc ce système d'addiction qui fait qu'on peut regarder en bingeant des séries quand on aime un épisode, on passe directement au suivant, etc.
Alors binge, ça veut dire on le regarde toute la nuit, oui, par exemple, au lieu d'en voir un épisode, voilà, on va en avoir 20 d'un coup, voilà, contrairement à ce qu'était ce qu'on faisait quand nous tous étions assez jeunes, où on attendait chaque semaine la nouvelle épisode. Emmanuel Paquette.
Oui, alors en même temps, la destinée d'Orange Cinéma Série, enfin d'OCS, a été extrêmement bousculée avec l'histoire d'Orange, puisque Didier Lombard, c'était lui qui avait pensé à la convergence, c'est-à-dire que les opérateurs télécoms devaient aussi fournir des contenus, donc notamment sportifs, et également de cinéma. Absolument. Et quand Stéphane Richard est arrivé aux commandes, pour remplacer Didier Lombard, après la crise d'Orange, notamment la crise des suicides, il se trouve que le sport a été définitivement arrêté, puisque c'était extrêmement coûteux pour Orange, et que le cinéma qui était central est devenu un petit peu plus, enfin un peu plus anecdotique, disons, dans la stratégie globale de l'opérateur. Alors aujourd'hui, l'avantage d'un groupe de votre filiale, aujourd'hui, c'est l'intérêt, c'est d'être dans un groupe qui fait 41 milliards de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est avec 6 millions d'abonnés, un peu plus de 6 millions d'abonnés à la box, à Orange, donc auquel vous pouvez aujourd'hui adresser des contenus. Donc ça, c'est un avantage important. Mais alors le gros inconvénient, c'est que vous n'êtes pas du tout central aujourd'hui chez Orange.
Et on a des fois du mal à trouver OCS chez Orange.
Exactement, et puis parce que simplement Orange dépense cette année 7,5 milliards d'euros, et essentiellement pour acheter des fréquences, pour l'infrastructure de la 4G et de la 5G bientôt, et puis pour faire en sorte que la fibre optique puisse aller dans les campagnes. Donc aujourd'hui, le contenu semble assez anecdotique dans la stratégie d'Orange. Donc je voulais savoir un peu comment vous le viviez.
Alors, il y a eu deux phases, et ça redevient pas central, mais ça redevient sur le devant. Alors il y a eu cette période, effectivement, où les contenus n'étaient plus du tout, mais c'était plus en odeur de sainteté, mais c'est après 4 ans, c'est quand Didier Lombard est parti. Alors, il y a eu beaucoup de confusion à cette époque-là. Je peux passer 3 heures là-dessus, mais à l'époque, il y avait surtout.
C'est le débat au fond. Est-ce que c'est des téléphones et de l'internet, ou est-ce que c'est aussi des films, quoi.
À l'époque, il y avait beaucoup de. Il y a eu le gros débat, en fait, était sur beaucoup d'investissements sur le sport, parce que c'est encore plus cher de faire des chaînes de sport, et donc le sport a totalement disparu. Sur OCS, c'est différent. Le sport était vraiment conçu comme un produit d'appel de FAI. OCS, c'est différent. Ce sont des comptes. C'est une chaîne de télévision avec des comptes fermés. Et donc, au bout d'un moment, il y a ce que qui prévaut, c'est la logique. Est-ce qu'on gagne de l'argent ou pas? Le problème de base d'OCS, historiquement, était qu'il avait été fait un choix absolument contestable, malheureusement, d'être distribué uniquement sur Orange. Et donc, une chaîne de télévision aujourd'hui payante ne peut pas survivre, ou alors c'est de l'argent à perte, mais si vous voulez gagner de l'argent et avoir un modèle vertueux, il faut être distribué partout. Donc l'erreur de départ a été d'être sur Orange, et on a plafonné à 400 000 abonnés. Avec des budgets qui étaient absolument pas en correspondance avec ce dimensionnement. Quand on a relancé, on a relancé OCS sous un, alors il y a eu une sorte de rebirth, de renaissance, où on a donc OCS a changé de nom, et s'appelait, enfin Orange Cinéma Série est devenu OCS, et on a enfin mis en place le bon modèle, qui était un modèle d'autodistribution totale. Et donc,
de choses que vous produisez.
Oui, mais en tout cas, le fait de distribuer partout, c'est-à-dire partout, que, pas confiné à Orange, donc sur CanalSat, sur SFR, sur Numéricable, on est même parti sur PlayStation. L'idée, c'est de distribuer partout pour avoir une assise de chaîne qu'on peut trouver partout. On s'abonne, mais il faut qu'on soit voilà. Et donc, ça a relancé le.
Il y a des actionnaires minoritaires qui pourraient expliquer ici.
Issu de cette
évolution.
De cette histoire, l'actionnaire a un tiers minoritaire et le groupe Canal.
Il va monter cet actionnariat, il va rester stable.
Pour l'instant, il est stable.
On annonce sa montée peut-être en 2019, par exemple.
C'est dans les
tuyaux.
Ou pas. À voir. Et en tout cas, c'est ce qu'on appelle un steering partner, c'est-à-dire qu'il n'est pas associé aux décisions stratégiques, puisque nous sommes concurrents. Donc en fait, on ne peut pas.
Il est à la fois actionnaire minoritaire et concurrent. C'est assez drôle.
Il ne voit pas. Voilà. Et alors, mais par contre, en revanche, pour finir sur votre question, depuis 2 ans, Stéphane Richard a repris le terrain des contenus, en reprenant d'ailleurs même en termes d'organisation, il a monté ce qu'on appelle Orange Content, oui. Et en associant la filiale Orange Studio et OCS avec une politique qui devient très ambitieuse sur l'investissement dans les séries.
Alors là, c'était un petit peu technique, mais concrètement, c'est assez simple de voir ce que se passe lorsqu'on regarde OCS. On voit des séries, on voit des films, et parmi ces séries, on voit l'essentiel, voire même toute la production d'un grand studio américain, d'ailleurs lui-même un peu singulier dans le paysage américain, qui est HBO. Oui. Pourquoi ce mariage quasiment avec HBO ?
Alors, on a pensé tout de suite à HBO dès le départ, parce que HBO c'est le fondateur de la télévision payante, c'est eux qui ont, pour moi, sont les plus emblématiques et le reste toujours d'une certaine manière, ceux qui nous ont donné les Sopranos, qui nous ont donné toutes ces grandes séries,
The Wire,
exactement,
et bien sûr Game of Thrones,
et donc qui ont toujours une politique de n'avoir pas froid aux yeux et d'inventer des choses qu'on ne voyait nulle part ailleurs, avec vraiment une narration reconnaissable, un respect des auteurs incroyable. Et puis quelque chose qui soit vraiment de l'ordre de la télévision payante, c'est-à-dire qu'on paye pour ça, et c'est vraiment une télévision pour adultes, c'est-à-dire qu'on voit.
Il n'y a pas les contraintes qu'il y a dans des séries où qui doivent toucher tous les publics et passer
exactement.
À des heures de grande écoute.
Et c'est peut-être d'ailleurs le petit problème qu'ils ont eu à un moment donné, mais qu'ils sont en train de corriger avec toutes ces nouvelles offres à la Netflix qui vont plus sur tous les genres. Mais en tout cas, c'est fondamentalement des séries intelligentes pour adultes. Et donc avec évidemment de la violence, du sexe, etc. Mais surtout des choses des sujets très adultes.
Et puis de la création, etc.
La création.
Est-ce qu'HBO n'a pas envie de créer son propre service, une sorte d'HBO en ligne qui serait donc un concurrent de tout ce dont on a parlé tout à l'heure? Mais du coup, quid de la relation avec OCS ?
Alors, c'est évidemment
débat.
C'est un débat et c'est une possibilité qui, pour nous, se posera pas avant plusieurs années.
Hein. C'est quand la fin du contrat OCS ?
Je peux pas vous le dire, mais on est les derniers.
C'est 2019 ou 2030 ?
Dans tous les pays du monde, on est dans les derniers. Donc, on n'est pas les premiers.
Donc, 2020,
potentiels.
2021, 2022, 2023.
voilà, dans ces eaux-là. Donc, on a le temps.
2020, disons, au hasard.
Plus loin que ça. Et donc, c'est vrai.
2022. Allez, je parie sur 2022.
Donc
là, vous n'avez pas dit non. On approche.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que eux aussi sont dans un groupe qui en mutation. Donc, ils viennent de se faire racheter. C'est Time Warner, racheté lui-même par AT&T, donc un câbleau, comme par
câbleau opérateur.
Hein. Et donc, eux aussi vont peut-être mettre en place de la convergence avec peut-être les films Warner et HBO aux États-Unis. Et en France, on verra. En France, il faut savoir que il y a quand même des stratégies très différentes selon les pays, selon l'Europe, l'Asie, etc. C'est pas pareil. Mais néanmoins,
donc vous êtes condamné, mais pas à court terme, pour le dire rapidement.
On ne sait pas.
Tout le monde est condamné.
On est potentiellement condamné. En tout cas, il n'est pas question de regarder la vie comme ça, les trains passer. Et donc, évidemment, que ça soit HBO ou que ça soit les autres producteurs, il faut absolument que nous on anticipe c'est un potentiel problème d'approvisionnement. Donc
Zoé Sfez.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question un peu avocat du diable, mais Netflix aujourd'hui peut se présenter, pas comme le nouvel Abidjo, mais peut se présenter comme quelqu'un qui, aujourd'hui, prend aussi les mêmes types de risques que vous venez de, que vous venez de décrire, ce qui a fait le succès d'HBO à l'époque, au début des années 2000, qui seraient les autres potentiels studios aux États-Unis, mais aussi en France, qui aujourd'hui vous intéressent et qui, par exemple, produisent effectivement, Netflix sont aujourd'hui quasiment les seuls à produire des séries autour d'un personnage noir américain, jeune, queer, et qui prennent ce risque-là parce qu'ils savent que ça va toucher une partie de leur public. Est-ce que vous voyez des relèves aujourd'hui, vous l'avez dit, HBO, c'est pas pour toujours. Qui sont les gens du futur, peut-être, qu'on pourrait trouver sur OCS?
Alors,
il y en a pas tellement.
Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et ça change tout le temps. Et donc, il y a beaucoup de boîtes. Ce qui est très étonnant, c'est que vous avez chaque année, ce qu'on appelle les LA screenings, qui est un moment aux États-Unis où on voit toutes les...
Une sorte de petit festival de Cannes à Los Angeles.
Quand on a lancé OCS, vous voyez, il y avait environ peut-être 5 ou 6 fournisseurs de séries. Et maintenant, quand vous allez là-bas, il y en a une cinquantaine. Et donc, il y a des petites boîtes de distribution qui font des séries absolument extraordinaires tout le temps. Et donc, même, on peut se poser la question à un moment donné de s'allier avec quelqu'un qui fasse plein de choses ou au contraire de faire les choses une par une. Nous, on fait des acquisitions. Aujourd'hui, on n'est pas que HBO. On va aussi faire on va chercher des programmes formidables.
Alors, par exemple, si on prend en ce moment, quelles sont les nouveautés attendues?
On a The Handmaid's Tale que tout le monde connaît. On a The First avec Sean Penn. La Servante Écarlate. Voilà. On va évidemment chercher des séries, emblématiques qui ne sont pas que issues de
HBO. Alors, je vous propose d'en écouter justement, c'est une mini-série annoncée pour mars.
But I already had a great desire to visit the library.
I cannot allow you to enter.
No one may, no one can.
Even if you manage to enter, this library can protect itself.
The beauty, the color, the perfume of a rose when it wilts. Only a word remains. Its name.
Il est 46 sur France Culture en direct. Trailer, bande-annonce du nom de la rose. Ça, c'est annoncé pour mars.
Absolument. Donc ça fait partie, justement, dans le cadre de l'évolution d'anticipation de la raréfaction potentielle de tous ces programmes. En fait, nous, on a, donc avec Stéphane Richard et sous le nom de Code Orange Content, a été initié un programme d'investissement dans la fiction. Donc, on avait déjà sur OCS nos propres fictions, qui sont des succès, qui sont des 26 minutes. Le label s'appelle OCS Signature et c'est par exemple Mission, Irresponsable, Les Grands, donc ça, ce sont des choses créativement très très fortes et qui vont très très loin dans la folie potentielle, on pourra en parler si vous voulez. Et puis pour monter d'un cran, on a ajouté à ça une politique d'investissement ambitieuse dans les fictions internationales et françaises. Donc là, on est dans la fiction lourde, européenne, internationale ou française.
Donc l'adaptation du roman.
Voilà, et donc ça c'est la première.
Qui avait déjà été tournée en film.
Série sous le label OCS Originals est la première de cette série d'investissement. Et donc c'est l'adaptation du nom de la rose avec John Turturro dans le rôle principal. Vous avez aussi Rupert Everett et c'est l'adaptation du bouquin.
Du bouquin lui-même adapté en mini-série. Exactement. Emmanuel Paquette.
Justement, vous parliez d'investissement là de c'était 100 millions d'euros sur 5 ans dont Stéphane Richard avait parlé, hein, justement pour financer des séries propres à Orange ou en coproduction avec Orange d'ailleurs et Orange Studio et Orange Cinéma Série OCS. Mais quand on regarde ces 100 millions par exemple par rapport aux investissements massifs de Netflix, Netflix c'est autour de 15 milliards cette année. Alors pour des productions propres et puis pour de l'achat de catalogue aussi. Hein. Quand on regarde HBO, on est aussi dans du milliard. Et HBO commence à arriver en Europe avec son propre service. Ils sont notamment chez linéaire, ils vous attaquent directement en Pologne par exemple, puisque HBO est disponible en Pologne, qui est le troisième marché d'Orange en Europe, après la France et l'Espagne. Donc aujourd'hui, HBO vous concurrence déjà sur certains pays, pas en France, mais dans d'autres pays.
Canal Plus aussi d'ailleurs.
C'est
l'Europe.
Et ils sont également en Espagne, qui est votre deuxième pays, et là HBO est en propre et en direct. Donc en fait, quand vous avez des exclusivités HBO, c'est simplement pour le marché français, essentiellement. Alors qu'aujourd'hui, Orange est présent dans plus de 30 pays dans le monde. Donc ça veut dire que OCS, aujourd'hui, aujourd'hui, Orange Cinéma Série, et reste quand même extrêmement franco-français.
Alors attendez, dans le cadre de cette politique d'investissement nouvelle, des fameux 100 millions, là pour le coup, on achète dès qu'on le peut, comme on est potentiellement producteur ou coproducteur, là on va aller chercher des investissements qui vont nous permettre d'irriguer les plateformes d'Orange au-delà de la France. Voilà. Mais c'est vrai que Game of Thrones, ou tout ce qu'on fait pour la chaîne, en fait, on prend des droits. Mais c'est là où on n'est pas du tout dans le même modèle avec un Netflix qui arrive et qui... Il y a quelques années, Netflix achetait des séries, prenait les droits pour la France, pour tous les territoires du monde. Voilà, maintenant, les séries ne sont même plus proposées sur le marché. Elles sont produites par Netflix et ils prennent la terre entière.
Mais justement, c'est très différent. 100 millions pour 5 ans, puisque à la fin de ces 5 ans, vraisemblablement, vous aurez plus les accords HBO.
100 millions pour 5 ans, c'est juste sur cette partie OCS Original.
Voilà, c'est ça. C'est mais est-ce que c'est pas trop peu et trop tard, en fait? Par rapport au risque de raréfaction des séries de HBO et d'autres.
C'est un début pour mettre en place la machine. Ensuite, on n'a pas que ça. L'idée, c'est de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, il y aura toujours des séries. C'est le syndrome Sony dont je parlais. Il y aura toujours des séries qu'on peut aller trouver toute seule. Il y aura toujours des programmes qu'on peut préacheter dans le cadre d'autres programmes. L'idée, c'est d'être tous azimuts, mais de faire que ça serait aussi idiot parce que c'est pas du tout les mêmes temporalités non plus. Donc, il faut qu'on soit sur tous les terrains.
Mot rapide parce que l'heure tourne. Votre rapport avec Orange Studio de production, vous prenez tout ce qu'ils produisent, ils sont libres d'aller ailleurs. Comment ça se passe, cet accord ?
Alors c'est exactement du même ordre qu'entre Canal Plus et Studio Canal.
Mm-hmm. Donc Orange Studio.
Orange Studio. Alors il y a
dirigé d'ailleurs par David Kessler, ancien directeur de cette chaîne.
Donc en fait historiquement, il y avait sur Orange Studio qu'une politique de cinéma. Mmh. Et donc, sur le cinéma, c'est absolument aucune interaction. Des fois, on fait des choses ensemble, des fois non. Aucune obligation, ni d'un sens, ni dans l'autre. Et des fois, on fait des choses ensemble. Sur les séries, c'est différent, parce qu'il y a un nouvel objet social. Mmh. Le point de départ, c'est quelque chose comme Le Nom de la Rose, c'est qu'il faut en même temps que ça soit, qu'il ait du sens pour OCS, mais aussi pour studio, en termes de justement d'irrigation et de vente potentielle dans le monde. Et donc là, on travaille totalement main dans la main, et on choisit ensemble. Donc c'est très différent. You have to protect it.
All this horror that's come to my family. It's all because I couldn't love a motherless child.
You are a Stark. You might not have my name, but you have my blood.
Vous avez reconnu évidemment la bande originale ou plutôt l'annonce, le trailer du nouveau Game of Thrones qui durera 440 minutes, c'est ce qui a été annoncé, qui sort le 14 avril sur HBO, dernière saison, OCS. La saison finale, elle aura 6 volets, chacun fera 60 minutes pour l'épisode 1 et 2 et 80 minutes pour l'épisode 3, 4, 5 et 6. Ce qu'on vient d'entendre a déjà été vu par 24 millions de personnes sur YouTube en tant que trailer de la saison 8. 14 avril, qu'est-ce qui se passe concrètement puisque c'est OCS qui va le diffuser?
Eh bien, comme ce qu'on a initié il y a quelques années, en fait, on propose la diffusion en simultané avec HBO aux États-Unis.
Donc, ça veut dire qu'il est 3 heures du matin.
Ça veut dire 3 heures du matin, vous êtes devant
la nuit du 14 au 15
et
avril.
Et donc, je pense que c'est le seul programme au monde où on constate des audiences à la TF1
à 3 heures du matin.
Et c'est en quelle langue?
C'est en version multilingue.
Ça veut dire que vous choisissez... dans la première diffusion, on choisit au milieu de la nuit.
Oui, absolument. Ce qui est
une prouesse technique et aussi linguistique.
Ne m'en parlez pas, parce que c'est le programme le plus protégé. Voilà, et donc
le doublé, ça doit être un enfer.
C'est comme un film d'espionnage. Les gens qui doublent et qui sous-titrent sont tenus.
Ils sont emprisonnés dans un sous-sol, un peu comme certains personnages de Game of Thrones qu'on voit dans le trailer.
Évidemment, comment vous voyez à la demande aussi à partir de ce moment-là.
Juste puis, après, sur OCS qui ne s'appelle plus Go, mais qui malgré tout peut être emporté en la demande. Comment vous comprenez le succès de vous n'êtes pas forcément de la génération, nous non plus, de départ de Game of Thrones. Comment vous expliquez ce succès incroyable pour une série d'une créativité époustouflante et en même temps avec des costumes d'époque, le Moyen-Âge, médiéval, etc.
Honnêtement, c'est assez... d'époque. C'est assez difficile de comprendre parce que vous avez... Alors, à la base, vous aviez une base de fans du bouquin. Et les fans du bouquin ont aimé, mais il y a beaucoup
même encore
de,
plus
y a,
quasiment
y a,
que
oui,
le
publicité, mais on a il y a plein d'exemples comme ça qui se terminent pas en phénomène. Alors tout ce que ça a pris d'une manière qui nous dépasse tous, parce que nous on a sur OCS on a les deux séries qui les plus incroyables en termes de communauté et de succès. On a aussi The Walking Dead, mm-hmm. qui est une série qui en termes de volume, c'est pareil, c'est des communautés énormes. Mais par contre, ce dont je me souviens très bien, c'est Game of Thrones, ça a mis 3 ans à prendre. Oui. C'est-à-dire, je me souviens qu'au début, j'avais tous les acteurs de Game of Thrones présents à Paris, ça n'intéressait personne. Et alors qu'aujourd'hui, vous n'imaginez pas, ça n'est même plus possible. Mais c'est vrai que ça a mis 3 ans à prendre, à ce que les gens...
Comment vous expliqueriez l'histoire, tout simplement, de Game of Thrones, dont on écoute un extrait, en l'occurrence, très beau, ça s'appelle Light of the Seven, de la bande originale de la saison 6.
Je sais pas comment j'explique l'histoire. Comme vous n'étant pas de cette génération-là, ce que je trouve particulier dans cette série, c'est la possibilité qu'ils ont réussi à tenir pendant 8 saisons d'avoir un nombre de personnages tellement important, mais qui peuvent être zigouillés à chaque instant.
Et donc, d'une complexité aussi incroyable. C'est un univers culturel avec des références innombrables.
Énorme.
Emmanuel
Est-ce que Game of Thrones a... Je suis désolé de revenir à la finance, mais a eu un impact chez vous
tout
en
de suite,
d'abonnés.
On bien parle sûr. D'art.
Mais vous êtes passé de combien à combien? Oui, je suis désolé. Je pense qu'à l'argent.
Non, mais il est évident que quand un Game of Thrones arrive chez nous, il y a un...
C'est bingo.
En plus du fait que c'est la série la plus streamée au monde, et c'est la série où c'est d'une facilité incroyable de la regarder en streaming illégal, et pourtant ça n'a pas découragé les gens de vouloir la regarder au même moment sur une télé confortablement installée dans leur canapé. Ça a été un motif d'abonnement, vous l'avez
vu? Ça l'a été parce que nous, on a, pour le coup, c'est quelque chose...
C'est que ça même.
On avait anticipé ça pour le coup, avec Walking Dead d'abord, on avait inventé le USB 24 qui n'existait pas.
C'est-à-dire que c'était 24 heures après.
Voilà, et ensuite le simultané, aussi pour des raisons de piratage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand les gens comprennent que vous avez chez vous des sous-titres parfaits, de très bonne qualité, une qualité HD, etc., il n'y a plus besoin de pirater, c'est déjà mieux.
Et donc le piratage vous a aidé en fait à vous améliorer?
Non, oui, si vous voulez. En tout cas, c'est un motif sain d'essayer de s'améliorer.
D'émulation.
Voilà, pourquoi exactement. On fait pas ça en France? Qu'est-ce qui manque, même si on fait des choses, hein, mais pourquoi est-ce qu'on est en retard malgré tout dans la production de séries télévisées en France, selon vous?
Je pense que Game of Thrones, c'est vraiment particulier. Mmh.
Mais plus généralement,
parce que là, oui, et puis en termes de budget, en termes de, c'est quelque chose de...
De costumes, de décors, etc.
En France, on est,
quelles sont nos faiblesses pour terminer cette émission? Quelles sont nos fragilités françaises?
Nos faiblesses qui sont en train de changer, j'espère, c'est que, par exemple, je vois que 10% marche beaucoup à l'étranger, etc. Mais on a déjà...
Grâce à Netflix.
Oui, absolument. On a un côté anglo-saxon assez universel avec la langue, etc. sur quelque chose comme Game of Thrones. Donc le premier rempart, c'est la langue et les spécificités que peut avoir un genre.
Mais, est-ce que l'ergonomie, par exemple, je pense à Netflix, qui est d'une utilisation, ce qu'on appelle la capacité, l'expérience utilisateur phénoménale, on peut changer de device, d'appareil, on peut s'arrêter, on reprend la série au même endroit. C'est moins simple sur OCS, c'est moins qu'on puisse dire. Des outils comme ça aussi permettent d'expliquer le succès de...
Bon, indéniablement, c'est extrêmement... Mais encore une fois, c'est la facilité, c'est très compréhensible, c'est facile, c'est pas cher et on peut se désabonner tout le temps. C'est une des clés de base. Voilà. Ensuite, c'est vraiment un produit beaucoup plus basique qu'une chaîne où vous avez du cinéma, des thématiques. Et puis voilà. Et nous, on a une approche quand même qu'on trouve plus intéressant, puisque sur Netflix, vous savez que vous êtes toujours confronté à des algorithmes qui vous proposent toujours ce que vous aimez, etc. Et nous, on est dans une...
Il n'y a pas d'algorithme.
On revendique notre algorithme, c'est notre programmation qu'on propose et qui change tout le temps et qui vous ouvre plutôt des portes que de les fermer.
Merci infiniment Guillaume Jouet d'avoir été notre invité ce soir. Vous êtes le directeur général d'OCS.
ça nous a permis de faire un tour à la fois de ce que vous faites en termes de fonctionnement, de catalogue, vos liens avec HBO, pour une part aussi avec Canal+, les évolutions, on l'a dit, du secteur de la SVOD, depuis Netflix, en passant par ce que Disney ou Apple ou d'autres vont lancer ou sont en train de lancer, et puis les séries télévisées, phénomène important dans la culture populaire aujourd'hui, avec Game of Thrones dans la saison 8, sera lancée le 14 avril prochain. On en reparlera sans doute dans Soft Power. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Dans un instant, la seconde partie de cette émission, 20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir de la politique américaine en matière d'intelligence artificielle telle que promise par Donald Trump cette semaine. Et dans un instant à 20h, Zoé Sfez, votre invité innovation qui entre dans le studio, et Jean-Baptiste Vieux.
Et avec lui, on va continuer à parler de cinéma, de VOD, de SVOD, mais on va surtout parler de cinéma des cinéastes. Vous vous rappelez de ce très beau titre, cinéma des cinéastes, et notamment de comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui continuer à regarder sur Internet, en VOD, en SVOD, des grands classiques du cinéma français, américain, européen.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça à suivre après Drake, un régulier de Soft Power sur France Culture.
You know, a lot of girls be thinking my songs are about them, but this is not to get confused. This one's for you. Baby, you my everything. You all I ever wanted. We could do it real big, bigger than you ever done it. You be up on everything. Love the whole thing, never own it. I want this forever. I swear I could spend whatever on it. Cause she hold me down every time I hit up. When I get right, I promise that we gon' live it up. She made me beg for it till she give it up. And I say the same thing every single time. I say you the, you the best. 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 You the best I ever had.
Il y a 10 ans, le rappeur canadien Drake n'était pas encore la star planétaire qu'il est aujourd'hui. L'industrie musicale n'était pas non plus ce qu'elle est désormais. Il y a 10 ans, Drake sortait une mixtape, comme on dit, intitulée So Far Gone. Depuis, elle était quasiment devenue introuvable, que ce soit en CD, en vinyle ou sur les plateformes de streaming. Et ce jeudi, comme par miracle, Drake l'a rendue intégralement disponible avec ses 18 titres, dont vous venez d'entendre un extrait avec le morceau Best I Ever Had, ce qui montre qu'on est toujours dans ce travail complexe des industries culturelles, et notamment de la musique, qui s'adapte, ou parfois pas, à la nouvelle donne, celle d'Internet.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez.
Bonsoir Jean-Baptiste Vieux.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir Jean-Baptiste Vieux, vous êtes le délégué général de la Cinétech. Cinétech qui se termine par T-E-K et non pas Q-U. La Cinémathèque des cinéastes, c'est ça ou pas? Des réalisateurs.
La Cinémathèque des réalisateurs,
réalisateurs.
Exactement.
On parle de Cinétech aujourd'hui parce que c'est une... Alors on peut dire quoi? On pourrait dire une plateforme, on pourrait dire un service. Comment est-ce que vous le définiriez? Je crois que récemment, Challenge avait titré que vous étiez l'offre anti-Netflix des réalisateurs français. C'est peut-être un peu abusif, mais comment est-ce que vous définiriez la Cinétech?
On peut dire ça un peu comme ça quand même, oui, effectivement. On est l'anti-Netflix dans la mesure où Netflix, c'est des algorithmes de machines et nous, on est des algorithmes humains. Puisque ce sont des réalisateurs exclusivement qui proposent sur la Cinétech leur liste de 50 films préférés du XXe siècle. Donc on pourrait dire qu'on est un site internet et on est également une plateforme VOD. C'est-à-dire qu'on est un site internet dans la mesure où on peut tout simplement se balader sur le site, regarder des bonus exclusifs avec des réalisateurs, des bonus archives grâce à un partenaire avec l'INA.
Savoir qu'un réalisateur aime quoi sans acheter nécessairement le film.
Exactement, donc on peut se balader dans les listes et si on veut regarder les films qui sont disponibles en streaming sur la plateforme, eh bien on peut les louer ou les acheter.
Alors justement, c'est l'idée est venue de 3 réalisateurs, Cédric Clapiche, Pascal Ferrand et Laurent Cantet. Elle est venue quand, cette idée? Parce que là, nous avons parlé pendant 2 heures avec à la fois de Netflix, de OCS, de nos amis, peut-être bientôt de Disney+, et on le sait souvent, on s'en est même beaucoup plein ici à Soft Power, il est des films, des grands films classiques, des films italiens, des films américains, qui font, disons, l'histoire du cinéma, qui sont aujourd'hui beaucoup plus difficiles à trouver en VOD ou en SVOD que des séries assez médiocres américaines qui, elles, font partie du catalogue d'un nombre invraisemblable de plateformes de SVOD ou de bouquets de chaînes. Qu'est-ce que c'était l'idée au début de la Cinéthèque?
Mais c'était exactement ça, c'était ça le constat de départ, c'est que Pascal Ferrand, Cédric Clapiche et Laurent Canté se disaient que c'était quand même dingue, on pouvait plus tellement voir les grands classiques du XXe siècle que surtout à la télé, qui avait la télévision avait vraiment démissionné de son travail de transmission et de diffusion des grands films classiques.
Le cinéma de minuit, ah. Ah
voilà, exactement. Et eux trois, ils avaient grandi avec toutes ces émissions cinéphiliques du passé, qu'ils affectionnaient particulièrement, et qui sont plus tellement là aujourd'hui. Donc ils se disaient, c'est quand même triste de plus pouvoir voir ces films facilement dans le cadre d'une offre légale sur Internet. Et il se trouve que tous les trois font partie de la SRF, la Société des Réalisateurs de Films, et qu'un jour en 2014, au courant 2014, Alain Roca, qui est le président du groupe Le Meilleur du Cinéma, qui opère la plateforme Universciné, était venu parler à la SRF de la vidéo à la demande. Donc les trois réalisateurs, littéralement sur un bout de trottoir, sont allés le voir après la réunion et lui ont dit « Mais pourquoi il n'y a pas de plateforme VOD qui existe à l'heure actuelle qui serait consacrée aux grands films du XXe siècle ?» Et il leur a répondu qu'effectivement c'est une idée qui lui avait déjà traversé la tête mais qu'ils n'avaient pas comment l'éditorialiser. Comment choisir les films en fait qui iraient sur cette plateforme. Et Pascal Ferrand, Cédric Clapiche, Laurent Canté ont dit « Ben nous, ce serait parfait. » Et c'est comme ça que l'idée est née. Et pendant un an et demi, ils se sont mis au travail. Et c'est comme ça que la plateforme s'est lancée en novembre 2015.
C'était une plateforme qui, à l'époque, ou enfin, en tout cas jusqu'à très récemment, on pouvait donc, comme vous l'avez dit, se balader, découvrir les choix de films de tel ou tel réalisateur. Et on pouvait soit louer, soit acheter le film. En le commandant comme ça, avec une offre qui était à la fois facile et en même temps pas très claire. Là, vous avez lancé un abonnement en septembre dernier. C'était quoi l'idée, justement, de cet abonnement? Parce que, effectivement, quand, par exemple, on va sur la page, on se saisit de cette occasion. Il faut rappeler que, par exemple, hier, la Berlinale s'est clôturée. On a eu l'ours d'or qui est allé à Nadav Lapide pour son film Synonyme et l'ours d'argent à François Ozon. Deux cinéastes qui ont fait des listes pour la Cinéthèque. Aujourd'hui, vous allez sur la Cinéthèque, vous pouvez voir les films qu'ils ont choisis. Et donc, ils vont vous en citer plusieurs chacun. Vous pouvez pas, par exemple, vous n'avez pas cette petite possibilité de dire, bon bah moi je prends un pack et je veux voir tous les films que conseille Nadav Lapide ou tous les films que conseille François Ozon.
Non, parce que c'est pas évident en termes de droit finalement, c'est-à-dire que si on veut faire un pack comme ça sur un ensemble de films, donc je répète, il y a 50 films dans chaque liste, et là-dessus on a à peu près 25-30 qui sont disponibles à chaque fois, ça implique d'entamer des négos avec les ayants droit pour chaque titre et pour voir si on a le droit de faire telle ou telle promo, c'est pas toujours évident. Mais l'offre par abonnement, on l'a lancée notamment pour répondre à une demande croissante des utilisateurs pour l'offre par abonnement, c'est des usages qui se répandent aujourd'hui, les gens tendent à aller vers la SVOD, mais nous on voulait la faire un peu différemment, on avait surtout dans l'idée que les jeunes puissent y avoir accès de manière simple et que ce soit accessible pour eux. Donc on a réfléchi assez longtemps, ça nous a pris un an et demi, deux ans, et on s'est dit qu'on allait partir sur quelque chose de très restreint, mais aussi très peu cher. C'est comme ça que maintenant, tous les mois, on a une sélection thématique de 10 films, accessibles en illimité pour 2,99€ par mois.
Voilà, c'est une offre effectivement très peu chère, avec 10 films qui sont donc éditorialisés, que vous piochez dans le catalogue que vous avez, avec des thématiques, par exemple, ce mois-ci.
Exactement. Ce mois-ci, c'est les affaires de famille. Et on a vraiment, c'est plutôt du très très lourd, hein. On a, ça va des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy à Faux semblants de Cronenberg, en passant par deux films de Bergman qui sont,
Alexandre.
Ouais, et Sonate d'automne. On a The Snapper de Stephen Frears, par exemple. Voilà. Donc il y a vraiment de quoi faire.
Donc c'est très beau, en fait, vous avez décidé de faire cette offre qui est, je pense, une des moins chères qu'on connaisse, 2,99€. C'est en fait le prix qu'on peut avoir par ailleurs pour juste louer un film. Globalement, c'est les prix même qu'on a chez vous, mais aussi sur Universciné, aussi quand on se balade sur d'autres plateformes d'offres légales. Et là, pour 2,99€, on a accès à 10 films choisis par vous par mois. Ce qui, du coup, effectivement, fait de vous une offre vraiment de curation, comme on dit, de curation. C'est-à-dire que c'est pas une offre à la Netflix, où là, vous vous dites, bon, bah moi, je vais payer... 10, 8, 9, 10, 12, et je vais avoir accès à tout. en supposant que je puisse quand même un peu choisir, là finalement d'une certaine manière on choisit pour moi mais je fais confiance. Est-ce
Exactement.
Que c'est un pari qui était un peu osé quand même?
Oui, ça s'est imposé pour nous. On s'est dit qu'on allait tenter comme ça et prouver que ça marche. Effectivement, on reçoit de plus en plus de mails d'utilisateurs qui nous disent « Grâce à vous, je me suis désabonné de Netflix ». Donc, c'est quand même une assez grande fierté.
Ah, donc, cette offre anti-Netflix, elle fonctionne bien.
Au quotidien. Et effectivement, on s'est dit que, encore une fois, la Cinétech, ça a été vraiment créé dans un désir de transmission de cette passion du cinéma qui était portée par les réalisateurs et qui continue de l'être. Et on s'est dit que c'était dommage si les jeunes, en raison de leur budget notamment, n'avaient pas accès à la Cinétech. Donc vraiment cette offre par abonnement, elle est venue répondre à ça. Parce qu'on voyait bien qu'ils s'abonnaient, qu'ils se créaient des comptes, mais après la consommation à l'acte ne se faisait
pas forcément.
Ne suivait
pas parce que c'était fatalement assez cher. Si
Exactement, et puis c'est pas leurs usages en plus. Maintenant, effectivement, les offres par abonnement offrent un tout illimité, qui fait que... Et finalement, grâce à cette offre, la moyenne d'âge rajeunit sensiblement depuis septembre dernier.
Effectivement, vous me disiez que vous visiez pour les trois premiers mois... 2000 abonnés, vous en avez 7000, donc ça fonctionne plutôt très bien, même au-delà de vos espérances. Question évidemment un petit peu avocat du diable, mais ce serait pas possible aujourd'hui pour vous de faire une offre à la Netflix? Ce serait trop cher, trop compliqué, pourquoi?
Non, en termes de droits, très très cher, effectivement, parce que sur l'offre par abonnement, comme on est sur de l'illimité, on paye plutôt des flat fees ou des MG pour chaque film, ce qui nécessite un investissement financier considérable quand même.
Parce que c'est ça aujourd'hui le problème, on a posé la question en entrée de jeu, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas tous ces grands films classique. Il y a plusieurs problèmes auxquels vous vous êtes confrontés. Il y a la question des droits. On sait qu'il y a certains catalogues qui sont tombés dans les limbes. Il y a des batailles d'héritiers qui font que plein de films ne sont pas disponibles. Et puis, il y a la question de la numérisation ou de la restauration. Comment est-ce que vous essayez de dealer avec ces problèmes-là, vous ?
Écoutez, je dis très régulièrement que ça s'apparente à de la spéléologie, parfois. C'est vrai que donc quand on reçoit une nouvelle liste de réalisateurs, je me mets en quête des distributeurs ou des ayants droit directement. Et je leur demande s'il serait possible de mettre le film sur la plateforme. On se heurte à plusieurs problèmes, effectivement. Un des problèmes, c'est que le film n'a pas forcément été numérisé. Parce que c'est un film des années 30, 40, 50, qu'il n'a pas eu de distribution ni en salle, ni à la télé récemment. Et que du coup, il n'existe même pas de copie numérique du film.
Donc son distributeur n'a même pas envie d'investir dedans aussi, c'est ça ?
En tout cas, il s'est pas posé la question jusqu'à présent, mais c'est aussi la beauté de la Cinétech, c'est qu'on fait ressurgir des films qu'on n'attendait plus, qu'on espérait plus.
Ça pousse les distributeurs à passer à l'acte, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Ça arrive.
Et alors sur la question des droits, les grands films classiques américains, c'est difficile de les avoir.
Oui, c'est assez difficile de les avoir parce que la plupart sont chez des majors américaines et que là, on se heurte à un problème de picking, comme on appelle ça. C'est-à-dire
donc
que
c'est
nous, on est vraiment
choisir.
Tributeurs du voilà. choix des réalisateurs. Donc, quand on va voir une major, on leur dit, bah voilà, il y a ces 50 ou ces 100 titres-là qui nous intéressent, mais le reste du catalogue ne nous intéresse pas, entre guillemets, parce qu'il n'a pas été sélectionné par un réalisateur.
Mmh. Et c'est comme ça, c'est que difficile du coup, avec les Américains.
Et c'est on difficile est sur de avec la les majors, effectivement.
Et justement, peut-être, dernière question de ce point de vue-là, combien de films on a aujourd'hui sur la Cinétech? Je crois que vous pouvez vous vanter aussi d'en avoir ressorti certains. Il y a certains films grands, classiques, importants pour notre histoire du cinéma, qui ne sont en fait que chez vous.
On est à plus de 1000 films disponibles à l'heure actuelle, sur à peu près 1500 ou 1600 films cités. Et là-dessus, il y en a encore 250 qui sont complètement inédits en VOD sur la Cinétech.
Exemple, vous en avez un en tête ou pas ?
Exemple, par exemple, Théorème a été très longtemps inédit sur la Cinétech. Je ne sais pas s'il l'est encore, mais très longtemps il l'a été. Viridiana de Buñuel, par exemple, qui est quand même une palme d'or. A Swedish Love Story, le premier film de Roy Anderson.
Un film qui avait disparu de l'internet, on peut le dire. On ne pouvait pas les trouver aujourd'hui.
Complètement.
Merci beaucoup. J'invite donc évidemment tout le monde à s'abonner à cette offre de la Cinétech qui est soutenue, il faut le rappeler, par le CNC et par la région Île-de-France parce qu'on est d'accord que le but n'est pas nécessairement de faire de l'argent,
non.
globalement.
Et aussi
ce
par
serait
le programme
bien de pas
média
trop en
de la Commission européenne. Ouais. C'est important à souligner.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Viau. La Cinétech, c'est donc la Cinémathèque des réalisateurs. Une offre à 2,99€ par mois pour 10 films.
Merci à tous les deux. France Culture, 20h12.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, comme chaque dimanche, pour terminer Soft Power, on parle ce soir de la politique américaine en matière d'intelligence artificielle, telle que annoncée, promise et assez peu financée, à vrai dire, par Donald Trump cette semaine. Alors lundi, le président américain a signé un décret, un executive order, on dit en anglais, intitulé American AI Initiative. En gros, un décret dans lequel il identifie 5 axes stratégiques pour développer l'intelligence artificielle aux États-Unis. Il demande aux agences, aux chercheurs, au monde universitaire et aux industriels de faire de cette intelligence artificielle une priorité, évidemment, en ligne de mire, on peut dire, la Chine. La prise de parole du président américain n'annonce rien de très précis, pas même l'allocation de fonds supplémentaires, mais elle atteste d'une volonté, disons, stratégique de se focaliser sur le développement de cette intelligence artificielle, un secteur qui lui apparaît comme à la fois très concurrentiel et donc stratégique. On en parle ce soir avec Emmanuel Paquet, qui est resté avec nous, et Amaël Guiton de Libération, qui nous a rejoint. Pour commencer, Amaël, 5 points, dans la stratégie de Donald Trump.
Oui, alors effectivement, il y a 5 points clés qui restent, il faut le souligner, quand même assez vagues jusqu'ici. Il y a le fait de faire de l'intelligence artificielle un investissement prioritaire des agences fédérales américaines. Il y a la constitution de ressources, à la fois en termes de données, en termes d'algorithmes, en termes d'infrastructures, de cloud, qui soient mises à disposition des chercheurs en intelligence artificielle. Il y a la question d'élaborer des standards. Alors je cite, pour des systèmes d'IA, donc intelligence artificielle, qui soient fiables, robustes, dignes de confiance, sûres et interopérables. Il y a la question de la formation des agents gouvernementaux aussi. Manifestement, il y a en ligne de mire l'idée de mettre en place des bourses, des programmes de formation, etc. Et puis, il y a aussi la question de la collaboration internationale, ce qui est assez complexe, puisque là, on voit bien que, comme c'était souligné, il s'agit assez clairement de faire pièce à la stratégie chinoise. Quand on parle de collaboration internationale, il y a toujours la question de jusqu'à quel point on garde son avantage comparatif, entre guillemets. Et puis, effectivement, ce qui a été quand même noté par tout un tas d'observateurs, c'est que, pour le moment, ça fait un peu catalogue de bonnes intentions, si on peut dire. En revanche, il n'y a absolument aucun chiffre qui est donné, à la différence de ce qui avait pu être fait par la Chine ou même par la France plus récemment.
Amaël, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, l'intelligence artificielle, ça n'a rien de nouveau. Au fond, c'est tout simplement des big data, des données de masse qui sont réorganisées et qui permettent de faire fonctionner tout un tas de choses. Quels sont les développements qu'on attend dans ce secteur pour les années à venir?
Alors, l'IA, en réalité, c'est même plus large que ça. C'est-à-dire que si on repart vraiment au tout début, dans les années, 50, 60, je pense, et qu'on reprend la définition à l'époque de Marvin Minsky, qui était donc un
considéré
comme un des pères de l'intelligence artificielle. Ouais. L'idée, c'était de construire des programmes informatiques qui, finalement, s'adonnent à des tâches accomplies par des humains. Donc, on voit bien à quel point c'est large, en réalité. Et quand on regarde, d'ailleurs, ce qu'étaient les départements d'intelligence artificielle dans les grandes universités américaines, je pense au MIT, par exemple, ou aux universités californiennes, en fait, c'était les départements d'informatique. Après, l'expression elle-même a pas mal évolué, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on fait en réalité beaucoup référence à une branche précise de l'intelligence artificielle, celle qu'on appelle l'apprentissage profond, c'est-à-dire des algorithmes entre guillemets auto-apprenants, même si j'aime pas forcément ce terme, ou en tout cas qui s'entraînent à partir de très 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 vastes bases de données. Donc c'est d'ailleurs pour ça que dans le débat public le plus souvent, la question de l'intelligence artificielle est très très liée à celle du big data, ce qui explique par ailleurs pourquoi ce sont de grandes entreprises de la Silicon Valley qui ont aussi une longueur d'avance dans ce domaine-là.
Avec les serveurs, avec
Je pense typiquement
Amazon, Google,
Facebook, parce qu'ils ont en fait à disposition pour entraîner leurs algorithmes énormément de données, et énormément de données personnelles, ce qui par ailleurs pose d'autres problèmes en matière de protection de la vie privée, mais ce qui explique aussi pourquoi la Chine développe à ce point l'IA, parce que justement, on a une population très vaste, on a de plus en plus de données, et pour le coup, on a un cadre de la protection des données personnelles qui est quand même extraordinairement restreint.
Emmanuel Paquet, sur cette question, l'avenir, au fond, notre avenir dépend, vous croyez, de l'intelligence artificielle ?
C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle, c'est des domaines d'application qui sont extrêmement larges, Donc ça peut aller aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs dans le degré présidentiel, ça peut toucher aussi bien le domaine de découverte, de la découverte scientifique, que des métiers. Dans les métiers, ça peut être les domaines de la santé, ça peut être les domaines du spatial, ça peut être le domaine de la défense, de la sécurité intérieure.
La voiture électronique, la voiture autonome,
effectivement, pour qu'elle puisse reconnaître, par exemple, qu'un passant est en train de traverser la route. Ça peut être la reconnaissance faciale, donc ça peut aider effectivement pour la sécurité nationale dans un pays, pour la gestion aux frontières, par exemple, au niveau des aéroports nationaux. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en fait, chacun l'utilise sans le savoir, en fait. Hein, il est en grande partie, par exemple, dans les systèmes de reconnaissance vocaux, comme Siri dans l'iPhone, comme OK Google, par exemple, dans les téléphones Google. Donc, il est déjà présent. Là, on est sur de la reconnaissance de langage, de parole. Il y a aussi la reconnaissance faciale qui est arrivée dans les téléphones. Donc, là, on voit les premières applications concrètes. Et puis, aujourd'hui, les étudiants aussi peuvent le voir tous les jours, puisque il y a une partie, alors c'est de l'algorithmie, c'est pas forcément l'intelligence artificielle, mais le fait que vous soyez orienté en fonction de votre profil d'étudiant dans telle ou telle université, ça repose en partie sur un algorithme, pas forcément intelligent pour le coup, mais un algorithme qui peut vous classer et vous envoyer dans une université.
Quel peut être, selon vous, peut-être Amal Guiton, le rôle de l'État au fond? Est-ce que l'État a un rôle dans le développement de l'intelligence artificielle? C'est au fond ce que croit Donald Trump, au moins à travers ses annonces, et aussi ce que croit la Chine, parce que elle a décidé, c'est une décision présidentielle, gouvernementale, lourde, de l'exécutif, de se lancer et d'agir dans l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi notre école qui pense que c'est au fond le marché qui va le faire tout seul, et le gouvernement est assez incapable de faire ça. Quel est ce débat?
Alors, le cas de la Chine est quand même assez particulier, parce que pour le coup, il y a quand même une intrication entre l'appareil d'État et ces grandes entreprises qui, effectivement, ont beaucoup de données, l'équivalent des GAFA, mais côté chinois, je pense, je ne sais pas, des acteurs comme Baidu, Tencent, etc.
Alibaba, oui.
Donc, effectivement, dans leur cosmogonie, le fait d'avoir une stratégie nationale pour l'IA, c'est cohérent, hein, ça, il n'y a pas de doute. Le cas des États-Unis est un peu particulier, parce que on peut pas s'empêcher de penser d'ailleurs que si ça n'est pas chiffré, c'est aussi parce qu'il y a l'idée que le privé aussi va être très présent dans l'histoire. Alors, de toute façon, ça paraît jamais aberrant d'avoir une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, ne serait-ce que parce qu'il faut à un moment donné aussi mettre des garde-fous. On voit bien aussi la question que ça pose en termes éthiques, en termes de protection des données personnelles, etc. Et c'est des débats qui ont eu lieu notamment en France à l'initiative de la CNIL, hein, la question sur l'éthique des algorithmes. Tout ça doit évidemment faire partie du débat public et les pouvoirs publics doivent s'inscrire dans ce cadre-là. Alors après, c'est aux États-Unis, de toute façon, moi j'ai quand même tendance à penser qu'on ne peut pas comprendre le développement de la Silicon Valley sans le rôle des agences fédérales elles-mêmes. Moi, j'ai beaucoup de mal à voir l'histoire de la Silicon Valley sans la DARPA, parce que historiquement, il y a toujours eu effectivement des relations.
C'est-à-dire l'agence de recherche de l'armée américaine.
Et il y a toujours eu des relations en réalité beaucoup plus étroites entre les entreprises de la Silicon Valley et l'administration américaine que ce qu'on pourrait en croire dans la mythologie
en général, ouais,
un peu de la Silicon Valley, etc.
La DARPA qui justement vient d'annoncer en décembre investir 2 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, très précisément. Emmanuel Paquette, est-ce que c'est au fond une réponse aux Chinois de la part de Donald Trump?
Bah, certainement, parce que d'une part, on voit bien que la mention même du décret présidentiel qui est pour maintenir le leadership des États-Unis en matière de leader d'intelligence artificielle, ça veut dire que ce leadership aujourd'hui est menacé. Et s'il est bien menacé par un pays, c'est bien la Chine. Donc on voit bien que c'est en réaction par rapport aux annonces chinoises et aux montants d'investissements chinois qui sont mis sur la table. En revanche, il y a quand même un point important que la Chine met en œuvre sans le dire, et les États-Unis le font, mais en le disant pour le coup, qui est l'open data, parce que comme vous le disiez précédemment, une intelligence artificielle se nourrit de données et apprend en fonction des données. Alors certes, aujourd'hui, les Google, Apple, Facebook, etc., ont accès à énormément de données de notre vie privée, puisque c'est nous-mêmes qui le leur donnons. En revanche, il y a tout un pan de données auxquelles ils n'ont absolument pas accès et dans lesquelles l'État, lui, a accès. C'est-à-dire, c'est vos données de santé, par exemple. Aujourd'hui, les données de santé, Google, Apple et les autres n'y ont pas accès.
Fort heureusement, oui.
Heureusement, voilà. Les données aussi, en fait, tout ce qui touche au régalien, en fait, c'est-à-dire vos impôts. Ça peut être la santé, ça peut être les impôts, ça peut être tout ce qui est du domaine de la sécurité. Si vous avez un casier judiciaire, hein, Google, Apple, Facebook ne le savent pas. Si vous ouvrez demain ces données, C'est ce que veut faire le gouvernement américain en partie hein, sur l'open data. Il faut aussi mettre en face un contrôle de ces données. Parce que sinon, les débordements peuvent aller très très vite en matière d'exploitation de données ouvertes, de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité et dans différents domaines. Donc c'est là où en fait on est en train de franchir un pas. C'est-à-dire autant la Chine le fait sans nécessairement le dire ouvertement, autant les États-Unis sont en train de le faire. Et comme c'est une démocratie, il va bien falloir...
Que ça passe devant le Congrès, que ce soit discuté que publiquement.
Exactement, que ces usages soient surveillés de près.
Donc là, les États-Unis, c'est aussi sa force et sa faiblesse à la fois de se corriger, mais de devoir toujours se justifier. Amal Guiton, justement, quelle place pour l'éthique et la protection des données dans ce plan ? Est-ce qu'il va faire, Donald Trump, de la protection des données sa priorité ?
Alors là, pour le moment, ça paraît quand même très compliqué à dire parce que c'est extraordinairement vague sur le sujet. Je crois que j'ai lu effectivement qu'il était question de rendre tout ça conforme au respect des valeurs et des intérêts américains, mais pour le moment, ça paraît quand même très 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 large. Ça va dépendre aussi de la manière dont le débat évolue aux États-Unis parce que pour le coup, on a bien vu après le fameux scandale Cambridge Analytica qui a touché Facebook. Donc pour mémoire, hein, cette entreprise de marketing politique et entre guillemets qui avait exploité des données personnelles d'utilisateurs de Facebook à des fins de ciblage pro-Trump et pro-Brexit, ça a créé un véritable débat aux États-Unis sur la protection des données personnelles, y compris avec des parlementaires américains qui, et c'était quand même assez inédit, tout à coup regardaient de près ce qui se faisait en Europe, notamment le fameux règlement européen sur la protection des données. Donc il faut voir aussi comment tout ça va évoluer de l'autre côté de l'Atlantique. D'une certaine manière, côté européen, on a déjà pas mal de garde-fous. Hein, parce que, alors notamment sur tout ce dont parlait Emmanuel, les données dites sensibles, hein, comme les données de santé, parce que c'est vrai que les applications de l'intelligence artificielle en matière de santé, c'est absolument fascinant hein, ce qui peut se faire. C'est-à-dire qu'on peut faire de la détection précoce de certaines pathologies, on peut faire une médecine beaucoup plus proche en réalité du patient, parce que à partir de tout un tas de critères, on va pouvoir par exemple évaluer le taux de récidive. Donc on est dans des applications qui effectivement ouvrent un champ des possibles qui est assez gigantesque. Alors après, effectivement, c'est toute la question et ces données de santé, à qui on les ouvre, comment, quelles données à quelles données laisse-t-on les chercheurs accéder, par exemple. Tout ça, on va dire que moi j'ai le sentiment en tout cas qu'en France et en Europe, on a un cadre qui est plutôt protecteur par rapport à ça, je pense qu'aux États-Unis, il est probablement plus lâche à l'heure actuelle. Ouais.
Emmanuel Paquette, on parle de la protection des données, au fond des questions d'éthique, mais est-ce que les Français ne seraient pas très bons sur la protection des données, mais sans avoir l'intelligence artificielle ? On en est où, nous, par rapport à ces immenses programmes lancés par la Chine, mais aussi par les États-Unis, donc depuis cette annonce de Donald Trump ? C'est pas nouveau, les États-Unis sont sur ce secteur depuis déjà longtemps. Est-ce qu'au fond, la France va pas protéger ses données, mais ne pas être leader de l'intelligence artificielle ?
Ça va être compliqué, parce que si elle est prise entre d'un côté les États-Unis qui sont en train d'ouvrir ces données justement pour nourrir l'écosystème de leurs géants nationaux et de l'autre côté la Chine, ça va être compliqué en Europe de faire de la résistance pendant très 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 longtemps. Donc est-ce qu'il faut créer ses propres géants entre guillemets du numérique qui peuvent exploiter l'intelligence artificielle? Et là, on en vient à la souveraineté numérique de l'Europe. La réponse est vraisemblablement oui.
Faut-il les avoir ?
Alors déjà, oui. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est un nouveau champ, entre guillemets. Donc l'Europe peut rattraper assez vite peut-être son retard. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. L'autre côté positif, c'est qu'il se trouve qu'on a quand même des très bons chercheurs, notamment en France, en intelligence artificielle. Par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les pères fondateurs de ce qu'on appelle le deep learning, donc l'apprentissage profond, qui est la nouvelle mode aujourd'hui hein, de l'intelligence artificielle. Parmi eux, il y a Yann Lequin, qui est aujourd'hui le responsable des laboratoires chez Facebook à New York. C'est un Français, même s'il travaille chez Facebook. Il y a Yoshua Bengio, par exemple, qui est aujourd'hui un Canadien, mais d'origine marocaine et qui a fait ses études en France, qui travaille à Montréal. Et puis, il y a le troisième père fondateur, qui s'appelle Geoffrey Hinton, qui lui travaille chez Google dans l'intelligence artificielle. Donc, on voit sur 2 sur 3, 2 travaillent dans des grands groupes américains, le troisième dans une université à Montréal. Donc, effectivement, on voit quand même qu'il y a une base importante en Europe qui peut encore aider. Donc, ça, c'est le point positif. L'autre, et il faut savoir aussi qu'en Chine comme aux États-Unis, les géants de l'internet veulent participer à ça. Jeff Bezos a fait un discours récemment. Hein, il a dit devant tout le monde, en plus pour répondre à ce que ses salariés disaient, c'est-à-dire ne pas participer à des programmes, notamment de sécurité nationale en matière d'intelligence artificielle. Il a dit si les grandes entreprises de la technologie doivent tourner le dos au département américain de la défense, le pays va être en difficulté. Donc Jeff Bezos pousse à ce que la majorité des entreprises de la high-tech américaine participent notamment à l'effort de guerre militaire et à l'effort sécuritaire. Donc il est nécessaire aussi qu'en Europe, des choses se fassent.
Pour terminer brièvement, Amaël Guiton.
Non, mais ça pose une vraie question, ce que disait Emmanuel, parce que aujourd'hui, effectivement, c'est le deep learning, hein, l'apprentissage profond, donc effectivement des processus qui s'appuient sur de très 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 vastes bases de données, qui donnent le là de la recherche en intelligence artificielle. Mais c'est pas forcément censé être. Enfin, il n'y a pas de raison que ça reste le cas forcément pendant 10, 15, 20 ans. Il y a aussi d'autres disciplines, et par ailleurs, peut-être que la France gagnerait et l'Europe de manière générale gagnerait à s'intéresser à ces autres disciplines, pour le coup, qui ne reposent pas forcément sur de gigantesques bases de données. Et puis, bon, peut-être signaler qu'effectivement, aux États-Unis, tout ça fait débat. On se souvient que chez Google, il y a eu énormément de débats, justement, par rapport à un programme de recherche
signé avec l'armée américaine,
qui associait le Pentagone sur de la reconnaissance dans des vidéos. Et beaucoup de salariés de Google jugeaient que ça risquait, en fait, d'être utilisé par les drones militaires.
Et
que ça leur posait de vraies questions, ouais.
Merci infiniment à tous les deux, Emmanuel Paquette de L'Express, Amaël Guiton de Libération. On en reste là pour ce soir. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter, mot-clé Soft Power, et vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone Soft Power. Dans un instant, vous allez retrouver Carbone 14, le magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. J'ai encore le temps, 3 secondes, pour vous signaler que Cédric Villani, voilà, en tant que intelligence artificielle, chercheur français, député mathématicien, sera l'invité des matins de France Culture à ne pas rater donc demain. Merci à tous et bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.